Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Les métaphores remplissent de multiples fonctions, bien souvent sans que nous en ayons conscience. Et l'une de ces fonctions, sans doute la plus élémentaire et en même temps la plus nécessaire, consiste à enrichir le vocabulaire d'une langue. Elles permettent de mettre un nom sur ce qui, au départ, n'en a pas. Et lorsque les phénomènes sans nom relèvent de l'abstrait et de l'immatériel, étant des idées plutôt que des réalités tangibles, comme c'est presque toujours le cas pour les notions du droit, le recours à des termes qui, eux, ont une consistance matérielle devient alors particulièrement fréquent. À première vue, le candidat idéal pour représenter le rôle joué par la métaphore en tant que remède à la pauvreté du vocabulaire est le mot « fructus », fruit en français. C'est un mot de la quatrième déclinaison latine dont le génitif est « fructus ». Le mot « fruit » évoque tout de suite, que sais-je, une pomme ou une figue, bref, un objet concret, naturel, qui est propre à traduire en termes tangibles un concept juridique et économique, celui de revenu, de profit. Mais sommes-nous sûrs qu'il s'agisse véritablement d'une métaphore ? Ce sera le long voyage que nous entreprenons cet après-midi, peut-être sans réponse certaine, mais suivre le mot « fruit » et son parcours nous permettra, je l'espère, d'explorer les profondeurs de la production du langage, ce qui nous importe. Prenons pour point de départ le temps présent, voyons comment le Code civil parle des fruits. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturel, soit industriel, soit civil, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Alors, comme vous voyez, les dispositions que je m'apprête à commenter s'inscrivent dans le régime de l'usufruit, c'est-à-dire le droit réel qui confère à l'usufruitier, au titulaire de ce droit même, la jouissance d'un bien appartenant à autrui et surtout lui attribue la faculté d'en percevoir les fruits, sans en altérer la substance, dit la définition d'usufruit. Sans en altérer la substance, c'est presque un propos ontologique qui est tiré directement du droit romain et qui signifie que la chose elle-même doit être conservée intacte et donc restituée au nu propriétaire. Donc il y a le couple nu propriétaire-usufruitier à la fin de l'usufruit. D'où la nécessité de définir précisément, étant donné que le contenu du droit de l'usufruitier est celui de pouvoir profiter des fruits de l'objet dont il a l'usufruit, d'où la nécessité de définir justement qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on considère comme fruit. Alors, le premier article les énumère, et ensuite viennent, selon un procédé typique des juristes, d'abord l'énumération, ensuite les définitions. Alors, commençons. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et les croix des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels, dans fond, sont ceux qu'on obtient par la culture. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Alors, à la lecture de ces articles du Code, on a l'impression d'un mouvement, presque dans l'englissement métaphorique accompli par le législateur. Le point de départ, ce sont les fruits naturels, voire les fruits spontanés de la terre. L'adjectif spontané est crucial parce qu'il implique que la terre a une volonté de production. Puis, on s'éloigne progressivement, les produits non plus de la terre, mais des animaux. Ensuite, encore, les produits de la terre qui requièrent néanmoins une intervention humaine. Il s'agit des fruits dits industriels, justement, car ils exigent le travail industrieux des hommes. Donc, ici, industrie, c'est un mot, disons, qui relève encore du Code civil de 1804, donc c'est vraiment au sens latin du travail industrieux de l'homme, qui prend ici également le nom bienveillant de culture. Enfin, il s'agit de fruits qui n'ont plus aucun rapport avec la biologie, mais qui sont de pures opérations juridiques à contenu économique, comme le loyer que l'on perçoit lorsqu'on loue un appartement. On dirait donc que le législateur a présent à l'esprit un noyau, un sens propre et initial, constitué par le fruit, au sens naturel le plus pur, qu'un produit généré spontanément par la terre et qui transfère, le législateur, transfère ensuite cette appellation à des phénomènes de plus en plus éloignés de ce sens qu'il considère ce sens comme originaire. Ces articles semblent donc dessiner presque une trajectoire allant du langage propre au langage métaphorique. Le langage du législateur de 1804 est encore le nôtre aujourd'hui. En effet, ces articles n'ont pas changé. Les mots restent presque identiques, à peine modifiés. Alors que tout l'univers des choses autour de ces mots s'est profondément transformé. Même les pratiques agricoles ont évolué ou situé, par exemple, dans les catégories dressées par le Code de 1804, l'agriculture hydroponique, lorsque les fruits naissent dans une serre sous le contrôle d'un robot. Et pourtant, dès lors que nous avons à nous référer au Code civil, nous devons encore nous confronter à ces mêmes mots restés inchangés. 1804 vous paraît-il lointain dans les temps et cette continuité des langages juridiques étonnant, mais ces mots viennent de bien plus loin encore. Ils sont employés par les juristes et les législateurs depuis l'Antiquité romaine. Comme je le dirai dans un instant, ils remontent même aux plus anciens monuments, témoignages, attestations du système juridique romain, c'est-à-dire la loi des 12 tables de 451-450 avant Jésus-Christ, soit exactement 2254 ans avant le Code civil de Napoléon. Un tel recul temporel, une telle continuité ne peuvent manquer d'impressionner. La question se déplace alors et recule, elle aussi, de 2254 ans. et devient dès lors celle de savoir si ces termes apparaissent déjà comme une métaphore dans les 12 tables. Donc vous voyez, parfois, la loi des 12 tables, et souvent la loi des 12 tables, est un point de repère, du point de vue lexical, pour comprendre l'histoire des mots. Donc ce n'est pas seulement très important pour un regard juridique, mais notamment comme source première d'attestation de mots qui ensuite ont eu une longue histoire. Alors, pour essayer de répondre à cette question, est-ce que, au départ, au moins au départ que nous pouvons saisir celui des 12 tables, parce que les mots ont une histoire même avant la loi des 12 tables, mais est-ce que, au niveau chronologique des 12 tables, le mot fructus était-il déjà une métaphore telle que nous la lisons dans le code de Napoléon? Donc pour essayer d'y répondre, élargissons un peu le regard, contemplons un peu le paysage, prenons le temps d'entrer dans un passage de Varro. Marcus Terentius Varro est un savant romain de la fin de la République, contemporain de Cicéron. Il était l'aîné, disons, de Cicéron de 10 ans, plus ou moins. Donc, contemporain de Cicéron et de César, Varro est considéré comme le plus savant des Romains, selon la formule employée par Quintilien. Son œuvre la plus importante en linguistique est les traités sur la langue latine, De Lingua Latina, rédigé probablement entre 47 et 45 avant Jésus-Christ. À l'origine, ce traité comprenait 25 livres, mais seuls les livres 5 à 10 nous sont parvenus en grande partie. Dans le De Lingua Latina, Varro s'applique à expliquer l'origine des mots latins. Son objectif est double, montrer que la langue obéit à une certaine logique rationnelle. Deuxième objectif, préserver la tradition romaine à travers l'étude des mots. Il y a toujours un côté, moi dirais-je, passéiste dans ceux qui s'intéressent au passé. Mais comme chaque mot est un livre ouvert sur la réalité qu'il incorpore, l'analyse lexicale des Varro constitue aussi une véritable mine d'or de référence aux usages, aux mentalités archaïques des Romains, qui autrement nous seraient perdus. Alors, comme c'est un peu, disons, la logique de cette séance aussi, j'insiste, l'étude du lexique est souvent pas seulement une étude de la langue, mais aussi des réalités, des images mentales qui ont conduit à utiliser, à créer, à transformer un mot. Donc il y a aussi l'intérêt pour la réalité qui est derrière les mots. Mais quant à Varro lui-même, recueillir le passé de Rome était une manière de défendre sa civilisation et de la faire survivre pendant la crise qui l'ébranlait. Donc il était contemporain de Cicéron, de César, il a eu aussi des moments vraiment très dangereux dans les événements qui ont ébranlé la République et qui ont amené jusqu'au Principat d'Auguste. La méthode de Varro est en partie étymologique. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec l'étymologie, je ne veux pas vous poser des questions intimes, mais quand même, moi, ça, je trouve l'étymologie, c'est l'une des pratiques les plus saines, les plus passionnantes qui existent. Donc, sa méthode était en partie étymologique, ses explications sont souvent acceptées par les glottologues aujourd'hui, Donc c'est pas seulement disons des efforts un peu vains. Souvent ils donnent la bonne piste aussi pour les linguistes d'aujourd'hui. Et pourtant sa méthode est aussi parfois par étymologique. C'est pas de l'étymologie, c'est un semblant d'étymologie, ce qui est beaucoup plus intéressant. Si on est conscient de faire de la parétymologie, il n'y a rien de plus rébarbatif de ceux qui essayent de faire de l'étymologie, mais qui, sans le savoir, font de la parétymologie. En revanche, ceux qui font consciemment de la parétymologie sont mes préférés. Donc, Varron propose des rapprochements qui ne sont pas scientifiquement exact selon la linguistique moderne, mais qui repose sur de ressemblances sonores ou sur des associations d'idées. Donc c'est ça la méthode, association d'idées, disons un peu le goût musical. Il perçoit dans les mots d'autres mots qui effectivement ne sont pas enracinés dans les mots qu'il est en train d'étudier, mais ça lui permet de faire des liens et d'expliquer la signification du mot. Et ces explications de ce genre reflètent davantage une logique culturelle et symbolique qu'une analyse historique et linguistique rigoureuse. Alors, c'est exactement ce qui se passe dans ce passage, tiré du cinquième livre. Ici, Varron ne fait pas seulement de l'étymologie, il montre par association d'idées comment le vocabulaire agricole latin reflète une vision économique. Les mots racontent la manière dont les Romains des premiers temps comprenaient la richesse et la production. Il faudrait le lire en latin, bien évidemment, parce qu'il s'agit de mots en latin qui sont expliqués par d'autres mots en latin. Donc je vous fais confiance, on va le lire en français, mais vous allez toujours revenir au texte latin dont je vous donne la traduction. On est d'accord ? Ager. En plus, vous savez, je déteste prononcer le latin à la française. Donc ça, pour moi, c'est un cauchemar. Je le fais pour vous, seulement pour vous. Ager, champ. Elle est nom donné à la terre dans laquelle on faisait entrer quelque chose. Ager, selon Varron, vient de agere. Donc, vous entendez ager, agere, qui signifie en français pousser, conduire. Donc, elle est nom donné à la terre dans laquelle on faisait entrer quelque chose, du verbe agere, ou hors de laquelle on faisait sortir quelque chose, en vue de la fruition, fructus causa. Le champ, ager, parce qu'il semblait être le fondement, fundamentum. Là également, vous entendez fundus, fundamentum. Le rapprochement. Fondement de quoi ? Des troupeaux d'animaux, pecudes, et fondement de la richesse, pecunia. Par ailleurs, vous savez que pecunia vient de pecudes. Donc, le champ, étant le fondement de la richesse, fut appelé fundus, fond de terre. Ou bien, il a été appelé fond de terre, fundus, parce qu'il fundit, c'est-à-dire répand, du verbe fundere, répand, Il repeint chaque année beaucoup de choses. Donc, rapprochement entre fundus et d'une part fondement, de l'autre part fundere, produire. Seges, moisson, vient de satus, semai, c'est-à-dire semen, semence, semens, semence. Donc, d'abord, seges, c'est moisson, parce que cela vient de la semai, seges, semai. Mais semen, semence, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est génial, mais on va le voir là, dans quelques instants. Semen, semence, est ainsi appelé, parce que ce n'est pas entièrement ce qui provient d'elle. Semen, parce que ce n'est pas entièrement ce qui provient d'elle. Ce que les segetes, champs de blé, ferunt, c'est-à-dire portent, ce sont les fruges, produits des champs. Donc, segetes, portent, ferunt, les fruges. Donc, vous voyez, il fait le rapprochement du mot fruges avec ferre, avec le verbe ferre, porter. Donc, les segetes, les moissons, les champs de blé, portent les produits des champs. Du verbe frui, fruor, c'est-à-dire jouir, vient fructus, fruit. C'est notre mot. Du verbe fruor vient fructus, fruit. Et je vous le dis tout de suite, c'est parfaitement exact. De spes, espérance, viennent les spiquer, épi, ça c'est merveilleux. Les prédia, domaines, sont ainsi nommés comme aussi les prédes, les garants. Encore une fois, vous entendez, prédia, sont les champs, c'est un autre nom pour champ, ager, sont ainsi nommés comme aussi les prédes, c'est-à-dire les garants. Tous les deux viennent de prestare, du verbe prestare, fournir en garantie. Parce que ceux-ci, c'est-à-dire les domaines, les prédia, lorsqu'ils sont donnés un gage aux autorités publiques, prestant, prête, garantissent la bonne foi de la partie dans l'affaire. Alors, ce n'est pas simple. Cela semble une série d'énigmes ou en non-sens, mais comme j'ai déjà fait, je vous conseille de vous laisser aller à la bizarrerie, à l'inventivité, presque au surréalisme de Varron. Laissez-vous aller et vous verrez à quel point ces explications vous paraîtront lumineuses. Alors, tout commence dans cette page, parce que vous avez bien vu qu'il s'agit d'un champ sémantique, c'est-à-dire ce ne sont pas des mots qui ne sont pas reliés l'un avec l'autre. Alors, donc, tout commence, justement, du champ ager, qui, selon Varron, tire son nom du travail, plus précisément de ce qu'on y fait entrer. On peut penser au bœuf qu'on fait entrer dans le champ pour le labourer, et aussi de ceux qu'on en fait sortir, c'est-à-dire les produits qu'on fait sortir du champ. La définition de Varron se renferme notamment sur la référence au fructus pour la fruition, fructus causa, c'est-à-dire que ce va et vient, on introduit quelque chose et on en retire quelque chose d'autre, est fait toujours en vue de la fruition, c'est-à-dire de l'exploitation. Je vais répéter ce mot fruition, même si je sais que c'est peu utilisé en français, parce que C'est un calque sur le mot fructus. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce va-et-vient Varron l'imagine à partir de la consonance du mot ager avec le verbe agere, pousser, conduire. Alors, voici un bas-relief de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ou du milieu du 1er siècle suivant, à marbre, qui correspond, à mon sens, un peu à l'image mentale que Varron avait à l'esprit lorsqu'il proposait son explication axée sur le fait de faire sortir les fruits du champ. Disons, la deuxième partie de son explication. Alors, ici, un bouvier fait avancer une vache portant des produits de l'agriculture et de l'élevage. En arrière-plan, évidemment, un sanctuaire. C'est l'un des bas-reliefs que je trouve les plus éblouissants de l'Antiquité romaine et qui est conservé à la Glyptothèque de Munich. Vous voyez, produits du champ, bétail, l'élevage. Donc, on sort du champ, agere. Le champ, se poursuit Varron, est aussi appelé fundus, fond de terre, soit parce qu'il est le fondement, le support matériel de la richesse, notamment la richesse constituée de bétail, pecudes, et ce terme a donné lieu aussi au terme pecunia. Donc, l'argent était à l'origine le bétail. Mais Varron observe qu'il existe aussi une deuxième explication, c'est-à-dire que fundus pourrait venir, mais vous voyez aussi cette manière, il ne dit pas qu'il y a deux explications qui sont alternatives et qu'il propose de partager. Il propose deux solutions qui sont cumulatives à son sens, parce qu'il s'agit de par étymologie, il cherche la plus bonne, si vous voulez. Il essaye de nous faire comprendre par cette accumulation de par étymologie le véritable sens de ce mot. Alors, donc, deuxième explication du verbe fundere, rependre. Le fond de terre est ainsi appelé parce qu'il répand, fundit, les produits de la terre. Dans la mesure où il est question dans cette page de la production agricole, il n'est guère étonnant que Varron s'attache désormais dans la suite aux produits eux-mêmes. Il commence par la vigne, le vignoble, dans un passage que je n'ai pas relaté ni commenté, puis aborde la moisson, les segetes au pluriel, singulier seges. À l'origine, ce terme segetes désignait la portion du champ qui avait été semée. Ensuite, par un glissement métonymique, de la cause à l'effet, il a pris l'essence de récolte ou de moisson. Et selon Varron, segetes, moisson, vient de satus, semaille. Satus, à son tour, est lié à semence, semen. Et comme je vous l'avais dit, c'est ici que Varron montre toute son habileté acrobatique dans l'interprétation, car il explique le mot semen comme s'il contenait le mot semi. Alors, on relit sa définition. Semen, semence, parce que ce n'est pas entièrement ce qui provient d'elle. Première vue, on ne comprend pas. Ensuite, on se dit, il a dû entendre dans le mot semen le préfixe semi. Alors, en français, je pense que ce n'est pas si si fréquent ce préfixe, mais c'est le même préfixe grec « hémi » qu'on trouve en français dans des mots comme « hémicycle » pour une salle, un demi-cercle, ou « hémisphère ». Donc, « sémi » est l'équivalent de « démi ». Donc, « sémence », essayez de diviser le mot en deux, comme s'il y avait au départ « sémi », sémence ne serait donc qu'une partie initiale incomplète. Ainsi, elle porte une promesse parce que elle produit ce qu'elle produit est plus important que ce qu'elle était au départ. C'est comme ça que Varron explique sémen. Et on retrouve ici, évidemment, l'image d'une nature bienveillante qui aide l'homme en faisant croître ce qu'il a semé. Mais en même temps, Varron souligne la valeur du travail humain, en particulier celui de l'agriculteur. C'est lui qui laboure, qui sème, qui irrigue. Son action s'ajoute à la force naturelle de la semence et en augmente l'énergie. Nous avons ici une conception similaire à celle des fruits industriels au sens du Code civil. Issu de la coopération entre la terre et l'homme industrieux. Le champ semé de blé, segetes, porte, c'est-à-dire qu'il produise et font naître les récoltes, dans la suite du texte, qui s'appellent les fruges, du verbe ferre, porter, notamment, fruges, notamment, il s'agit des légumes et du froment. Le verbe latin ferre suggère l'idée que la terre soutient et offre ses fruits, comme si elle les faisait émerger et les présentait aux hommes. Ensuite, Varron ajoute que de fruits, jouir, tirer profit, vient fructus. Le fruit n'est pas seulement un produit naturel, c'est quelque chose dont on jouit. On commence à entrer dans le champ qui nous intéresse de plus près, dont on tire profit. Donc vous voyez, il y a d'une part une perspective qui part de la terre et de sa production, qui vise sa production, mais avec fructus, on se déplace, on change d'angle de lecture, parce que ici, le rattachement au verbe fruor implique que c'est plutôt l'angle de la jouissance de ce qui nous apporte du bénéfice qui donne le nom au fruit, au fructus. Ensuite, Varron croit reconnaître le mot spes, espérance, dans spice, épi, l'attente d'un gain futur. Et enfin, le texte semble s'éloigner des produits, revenir au champ lui-même, et s'est déplacé du registre agricole vers le registre juridique. Les domaines, les prédia, sont liés par Varron au garant, prédes, et au verbe prestare, garantir. La terre n'est pas seulement une réalité agricole, elle est aussi une valeur économique. Un champ, un domaine, peut servir de garantie auprès des autorités publiques, comme il l'explique, par exemple, dans le cadre d'un marché passé entre un particulier et une cité. En conclusion, comme on peut le voir par ce chemin de synthèse, ce texte de Varron montre que pour les Romains, l'agriculture est la base de l'économie, que le vocabulaire agricole est lui aussi un reflet de l'économie. Donc, j'ai essayé de vous présenter le raisonnement de Varron de façon très synthétique. Ce relief a été trouvé à Ostie. Il s'agit d'un comptoir de vente qui est composé de trois cages. Deux lièvres sont visibles dans la cage. À droite. Les autres cages contiennent de la volaille. Sur les dessus des cages se trouvent deux singes. Est un panier. Le panier contient probablement des escargots. Ici. Cette femme qui est au comptoir donne un objet, un fruit, qui provient de l'un des deux plateaux à un client masculin, barbu. C'était les hommes qui allaient faire les courses. Au-dessus du client, vous voyez de la volaille, des oies qui sont suspendues en support, et plus à gauche, des hommes discutent des produits. Celui de gauche tient un animal en lièvre, probablement un petit cochon, dans sa main droite. C'est de ça que Varron nous parle dans cette page. Alors, avec Varron, nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Son regard se tourne vers le passé, vers les âges obscurs des Roms. Donc il faut comprendre que même si Varron nous paraît très éloigné, il est un homme, disons, de l'apogée de la République. Donc quand il parle de ce vocabulaire, il assume une attitude rétrospective. Donc, si nous voulons rechercher la signification des mots, non pas dans le regard rétrospectif d'un antiquaire comme Varron, mais dans des textes plus anciens, nous nous trouvons en difficulté. Car plus on remonte vers les origines des Roms, plus le texte se raréfie. Il existe pourtant des exceptions, notamment la loi des 12 tables, à laquelle nous revenons maintenant. Pourquoi la loi des 12 tables a survécu tel un bloc erratique dans le désert des témoignages écrits? Grâce à son importance, et qui a fait qu'elle était transmise, cette loi, disons, matricielle du système juridique romain, transmise de génération en génération. Et lorsque la littérature latine naît, donc disons à peu près le 200 avant Jésus-Christ, on retrouve souvent des mentions de la loi des 12 tables dans les écrivains, même s'il ne s'agit pas d'écrivains de textes juridiques, mais c'est tellement crucial comme... pas seulement législation, mais presque comme un livre identitaire de la Rome antique, qu'il y a toujours une bonne raison pour les mentionner. Donc même si nous n'avons pas le texte complet, on peut en faire l'édition, ce qu'a fait récemment, 2020, un grand savant français, Michel Imbert. C'est de son édition que je cite ce texte. Si la possession intérimaire de la chose faisant l'objet de la revendication a été obtenue indûment, que le prêteur nomme trois arbitres, on transigera par une compensation fixée au double de la valeur de la chose et des fruits, en suivant l'avis des arbitres. Alors, il faut s'habituer un peu au style des 12 tables. C'est déjà le style impératif de la loi tel que nous l'entendons encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose, il faut l'avouer, de rugueux, de rocailleux, de solennel, presque d'épique, ce qui est rocailleux, souvent épique. Et les mots, parfois transparents, parfois obscurs, étaient déjà difficiles à comprendre pour les Romains des époques postérieures. Cicéron lui-même peiné à en saisir l'essence, bien qu'il eût appris par cœur dès l'école la loi des 12 tables. C'est sur ce texte, en effet, qu'on apprenait à lire et écrire, imaginez la rigueur d'une telle éducation. Cela dit, au fond, la situation envisagée par la norme ici est assez compréhensible. Il s'agit d'une action en revendication. Quelqu'un se prétend propriétaire et réclame la chose à celui qui en a la possession. Donc ça, c'est le cadre. Quelqu'un se prétend propriétaire et réclame la chose à celui qui en a la possession. Dans ce type de procès, le prêteur, c'est-à-dire le magistrat qui administre la justice, attribue d'abord provisoirement, disons avant le jugement, qui est par ailleurs confié à un juge tiers, il attribue, le prêteur, d'abord provisoirement la possession de la chose litigeuse à l'une des parties, jusqu'au jugement. La chose en litige s'appelle vindicia, ou au pluriel vindice. Métaphore transparente qui exprime surtout la violence qui se produit ou qui fait semblant de se produire dans le cadre du procès. Et il y avait cette explication étymologique qui n'est pas fausse, vindicia de vim dicere, dire la force. Donc il s'agit de la lutte qui a lieu dans le procès. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que pendant la durée du procès, la chose est confiée provisoirement à une des deux parties. Et si au terme de la procédure, celle-ci succombe, elle doit restituer au vainqueur, reconnu propriétaire, la chose et les fruits perçus, au double. C'est précisément l'objet de la règle qui est énoncée ici. Pour évaluer la valeur de la chose et du fruit, le prêteur nomme trois arbitres. Alors, imaginez que le possesseur intérimaire ait récolté, consommé le raisin et qu'ils doivent maintenant restituer la chose à l'adversaire. Les arbitres en fixent le prix qui sera ensuite multiplié par deux. Mais que signifie ici fructus dans la loi des 12 tables? Alors, franchement, c'est pas si évident que ça d'avoir la possibilité d'une attestation du mot fructus à ce niveau chronologique, aussi reculé dans le temps. Donc nous sommes au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, on a un témoignage, l'attestation de ce mot. Après, on pourrait discuter, est-ce que vraiment la transmission de ce texte est fidèle? Alors, nous suivons cette édition critique et il y a le mot fructus dans cette norme de la loi de 12 tables du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc notre question, cette attestation nous amène à nous questionner sur la signification originaire à ce moment-là du mot fructus. Comment comprendre? On n'a pas beaucoup d'éléments ici. Mais d'abord, nous avons le cadre juridique. Donc, il faut entrer un peu. Nous avons essayé d'entrer dans le mouvement, dans la fantaisie de Varron, du point de vue lexical. Essayons d'entrer maintenant dans le jeu juridique. Placez-vous donc du côté des arbitres. Que doivent-ils évaluer? Les fruits naturels seulement? Alors, si on adopte ce point de vue juridique, celui des rapports entre les deux parties, celui de la justice en somme, on voit bien que les arbitres ne peuvent guère se limiter à prendre en compte les seuls produits de la terre. Il devait apprécier l'ensemble du préjudice économique résultant de la privation de l'exploitation pendant la possession intérimaire, la durée du procès. Comment la justice pourrait-elle admettre que la partie déboutée, puisqu'elle n'en avait pas le droit pour elle, garde l'argent qu'elle a perçu, par exemple, en louant le champ entier? Peut-on alors soutenir que Fructus exclut un tel profit? Je ne le crois pas. Et cette conclusion se trouve confirmée si l'on prend un autre angle d'analyse, le point de vue lexical cette fois-ci. Car d'autres dispositions de la loi des douze tables mobilisent en effet des termes du même champ sémantique, contribuant ainsi à préciser par ricochet le sens du fructus. D'abord, la loi parle de flux, c'est un terme que nous avons déjà rencontré dans Cicéron, vous vous souvenez, les segetes portent. Les fruges, porter ferre. Fruges signifie la récolte. Plus précisément, le mot signifiait d'abord la force fécondante, frux comme lux, l'énergie du sol lui-même. Les termes en est venu ensuite à désigner les produits de cette force, notamment les céréales et les légumes. On trouve dans la loi des douze tables aussi le mot glans, le gland de chêne, puis tout fruit d'un arbre. Enfin, on y trouve seges, un terme que nous venons aussi de voir dans Varron, qui signifie d'abord la terre ensemencée, puis la moisson. Or, si l'on met ensemble fructus, fruges, glans et segetes, on voit que fructus est le terme le plus large. Les autres désignent des espèces particulières, céréales, légumes, fruits des arbres, moissons. Le terme fructus, lui, se présente donc déjà comme une notion générale. Un constat auquel nous parvenons sur le plan lexical et qui est conforme à l'hypothèse formulée à l'instant lorsque nous envisagions le rôle des arbitres et leur tâche juridique de préserver l'équilibre entre les parties qui impliquait, je viens de vous le proposer, une notion large de fructus. Alors, cela n'a rien d'étonnant car le mot, nous l'avons appris de Varron, vient du verbe fruor, dont il est participe passé, et qui signifie « jouir de quelque chose ». Donc « fructus » vient du verbe « jouir »,« profiter de quelque chose ». À moins, je le souligne, qu'un développement sémantique encore plus ancien que celui qui nous semble découler de l'étymologie nous échappe, « fructus » donc, à l'origine, désigne la jouissance, le fait de tirer profit de quelque chose, en sens très large. Il faut se dépouiller de l'idée de fructus, de l'équivalence entre fructus et fruit. Fructus, à ce niveau chronologique et dans ce contexte, signifie plutôt la jouissance. Comme je vous l'ai proposé, essayons de substituer mentalement le mot fructus par le mot fruition. Et vous l'aurez noté, cette définition, fructus désigne la jouissance, la fruition, par non du produit, mais du sujet qui en jouit. Ce n'est pas les points de vue de la nature qui produit, mais celui de l'homme qui en bénéficie. Mais il y a un élément encore plus important qui échappe souvent à l'analyse. Dans la norme de douze tables que nous avons vue ici, le mot fructus n'est pas au pluriel. On ne dit pas qu'il faut restituer le double de la valeur des fruits au pluriel, il dit qu'il faut restituer le double du fruit au singulier. Et donc fructus a ici précisément son sens fondamental, celui qui le rattache au verbe fruor. Il désigne d'abord la jouissance avant de désigner les produits, les choses mêmes de la jouissance. Donc, fruition. Ainsi, le législateur des 12 tables emploie un terme abstrait. Le possesseur intérimaire doit restituer la valeur de la fruition, laquelle implique potentiellement tout type de produits, non seulement ceux du champ, mais aussi ceux des arbres ou encore des animaux, et pourquoi pas, peut-être même le travail d'un esclave dont l'activité aura été exploitée. Fructus n'est donc pas une métaphore. C'est au contraire un terme juridique, économique, par excellence, dès son origine. Nous savons d'après diverses sources qu'au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, une controverse avait divisé les juristes les plus importants de l'époque. Manius Manilius, consul en 149 avant Jésus-Christ, Marcus Junius Brutus, préteur en 142, Publius Mucius Scaevola, consul en 133 avant Jésus-Christ. C'était une époque de pionniers. On considère qu'il s'agit des trois juristes qui ont, citation, posé les fondements de la littérature juridique. Parmi les différentes versions de cette controverse qui nous sont parvenues, prenons celle de Caius, un juriste que j'admire pour sa limpidité et qui écrit trois siècles plus tard, au IIe siècle après Jésus-Christ. L'enfant d'une esclave n'entre pas dans le fructus, dans la fruition. Il appartient donc au propriétaire. En effet, paraissait absurde qu'un être humain fût compris dans la fruition, puisque la nature a destiné tous les fruits au profit des hommes. Alors, tout d'abord, vous l'aurez sans doute remarqué, Gaius, en rapportant la controverse qui avait, disons, opposé les trois grands juristes du IIe siècle avant Jésus-Christ, emploie lui aussi fructus au singulier. C'est une remarque très simple, mais qu'on ne fait jamais. Il ne dit pas, comme on pourrait s'y attendre, comme tout le monde traduit, parce que c'est l'attente, vous voyez, que le récit est toujours dans l'oreille qui l'accueille. Et donc, la traduction est toujours une interaction entre le texte et les attentes du traducteur. Et donc, on s'attend de le verbe au pluriel, mais on ne se rend pas compte que le verbe est au singulier, que le mot est au singulier, latinisme. Donc, le texte ne dit pas « l'enfant de l'esclave fait-il partie des fruits ?» Il dit « rentre-t-il dans le fructus ?» Et donc, il faut sous-entendre, il faut entendre ce texte au sens de fruition. Est-ce qu'il rentre dans la fruition? Alors, reprenons d'abord, pour mieux comprendre la controverse, le contexte juridique. L'usufruit, on l'a déjà dit, le droit d'user d'une chose et d'en jouir, c'est-à-dire d'en percevoir les fruits. Il y a donc une séparation entre la propriété, la nue propriété, la titularité du bien et la faculté d'en jouir. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui encore, l'institution existe. On la rencontre par exemple en matière immobilière avec ce que l'on appelle le viager. On vend l'immeuble, mais on conserve le droit de l'habiter, d'en jouir jusqu'à sa mort. Bon, c'est pas exactement l'usufruit, mais donc c'est une institution parallèle qui vous donne l'idée de la centralité de cette institution dans le système juridique et même dans l'exploitation économique de biens. Imaginons qu'à Rome, un usufruit porte sur un champ, sur un ager, ou sur un fundus, ou sur un predium. Bon, tous les mots qu'on a vus dans Varron. Ou sur un brebis, une brebis. Alors, donc, usufruit sur un champ ou sur une brebis. Alors, donc, on a une personne qui est propriétaire du champ ou du brebis. Il y a une personne qui est usufruitière de même objet. Le champ donne une moisson, la brebis, un agneau. À qui appartient-il ? Au nu propriétaire ou à l'usufruitier ? Alors, vous avez tous compris, la logique même de l'usufruit conduit à les accorder à l'usufruitier, titulaire du fructus, de la fruition, de la jouissance, faculté percevoir les produits du bien. Imaginons maintenant qu'un droit d'usufruit soit constitué cette fois-ci sur une esclave. Et là, c'était le cas à Rome. Une personne est nue propriétaire, une autre en est usufruitière. Supposons que l'esclave mette au monde un enfant. Même question, à qui appartient cet enfant ? Au propriétaire de l'esclave, ou bien, puisqu'il existe un droit d'usufruit sur cet esclave, à l'usufruitier, comme c'est le cas, nous venons de le voir, pour la moisson et l'agneau. Comme je vous l'ai dit, c'est une question assez difficile, et donc elle a divisé les trois grands juristes du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais l'opinion de Junius Brutus l'a emporté. Il nie que l'enfant né de l'esclave appartienne à l'usufruitier. Et c'est cette opinion gagnante que Gaius rapporte. Alors, le raisonnement est d'une sobriété et d'une rigueur telles que les modernes ont tenté de le compliquer inutilement. C'est toujours comme ça. Alors, Brutus, mais aussi Gaius, qui leur relate son opinion, part d'une promesse. La nature a procuré tous les fruits dans l'intérêt de l'homme. Vous voyez ici, il paraissait absurde qu'un être humain fût compris dans le fructus, puisque la nature a destiné tous les fruits au profit des hommes. Est-ce que c'est un propos que Gaius ou Brutus lui-même avait envisagé et conçu ? Pas du tout, c'est une proposition, un propos, une base de la philosophie stoïcienne. Donc, la philosophie grecque, notamment des stoïciens, notamment de Chrysippe, que nous connaissons par plusieurs sources, l'une des plus intéressantes est la nature des dieux, dont je vous ai parlé lors de mon cours sur le droit de la nature. Avant tout, l'univers lui-même a été fait pour les dieux et pour les hommes. Mundus, c'est vraiment l'univers, tout ce qui existe, lui-même a été fait pour les dieux et pour les hommes, et toutes les choses qu'il contient ont été préparées et créées pour les fructus des hommes. Donc vous voyez que c'est le même propos. À partir de là, Brutus tire une conclusion simple. Si tout fruit est tel parce qu'il est destiné au bénéfice de l'homme, alors l'homme ne peut pas être inclus dans ce dont l'homme jouit. Cela peut sembler paradoxal si on pense à l'esclavage en général, mais ici, il ne s'agit pas d'un discours général, global sur l'esclavage. Les juristes cherchent à répondre à une question précise concernant le conflit d'intérêts entre nu propriétaire et usufruitier. Seul destin qu'ils ne conçoivent pas, c'est que l'enfant né soit libre. Ça, c'est le sous-entendu. Donc la question, c'est à qui cet enfant doit être attribué. Et la conclusion est d'une logique implacable. Gaius dit qu'il serait absurdum de faire entrer l'homme, c'est-à-dire le nouveau-né, dans la notion de jouissance, de fructus, absurdum, c'est-à-dire illogique, contradictoire. Là également, on comprend pas toujours ce que ce mot veut très bien dire. Il y a une belle recherche, un article, il y a une trentaine d'années, d'une savante italienne qui s'appelle Piera Capone sur ce mot absurdum. Car le fruit, le fructus, est précisément ce qui procure une utilité à l'homme. Or, c'est ici la contradiction logique, l'homme ne peut pas être en même temps sujet et objet de la jouissance, de la fruition. Alors, je sais bien que vous percevez ici une tension avec l'idée même de l'esclavage, mais du point de vue technique du droit, c'est la solution la plus limpide. Permettez-moi d'évoquer ici une splendide mosaïque provenant de la remarquable cité romaine d'Outina, l'actuelle Oudna en Tunisie, aujourd'hui conservée au Bardo. On y voit deux esclaves, Miro et Victor. Miro et Victor, occupés à servir leur maître en lui versant à boire. Le paradoxe veut que ce maître s'appelle Fructus. Fructus est un cognomen, c'est-à-dire le troisième élément du nom romain, un surnom qui suggère, à l'évidence, quelqu'un capable de tirer profit de ses biens. C'est le... comment dirais-je, c'est le champion de la fruition. C'est bien l'image que j'ai souhaité, l'image mentale que j'ai souhaité vous proposer dans mon cours, dans cette séance, ce renversement de perspective, c'est l'homme qui tire profit et qui détermine ce qui est tenu pour fruit. Je m'apprête à conclure, mais voyons encore ce texte. Le fruit d'un esclave consiste dans son travail, et réciproquement, le travail relève de la fruition de l'homme. De même que pour les autres biens, la fruition s'entend après déduction des dépenses nécessaires, il en va ainsi du travail des esclaves. L'esclave n'est pas lui-même l'objet des fruitions, ce dont jouit l'usufruitier d'un esclave, ce sont ses prestations, ses journées de travail. Et comment évaluer ces journées de travail? Imaginez-vous arbitre au temps de 12 tables, il faut calculer la valeur des prestations de l'esclave après déduction des dépenses nécessaires à son entretien, nourriture, vêtements, etc. Et c'est ici que le lien entre fructus et profit apparaît avec netteté. Le fructus devient ce qui reste. Deux écarts se dessinent alors par rapport à l'idée naturelle de fruit en tant que produit de la terre. D'abord, fructus ne désigne pas seulement la chose produite, la pomme ou le blé, mais la jouissance elle-même. En outre, un second pas est franchi, le fruit est envisagé d'un point de vue économique, il est le résidu après les charges, les fruits et les profits. C'est un point d'arrivée, aussi de notre cours, que l'on voit clairement chez Gaius, et déjà chez certains juristes plus précédents, mais qui, à mes yeux, est contenu dès l'origine dans la norme des 12 tables, dans la tâche confiée aux arbitres d'évaluer les fructus. Donc, terminons avec ce texte. Ici, la dénaturalisation est complète. Des vêtements ne sont ni la terre, ni un animal qui donne du lait, ni un homme capable de travailler. Voyez, si l'on revendique des vêtements ou une coupe, est-ce qu'un vêtement ou une coupe produit quelque chose? Oui. La fruition doit inclure les loyers que l'on aurait pu en tirer en les louant. Ce sont des biens artificiels, inanimés, et pourtant, ils peuvent être considérés comme producteurs de fruits s'ils produisent un revenu. Par exemple, sous forme de loyer, un avantage né d'une opération purement juridique. Donc, il s'agit des biens inanimés et en même temps fructueux. Vous aurez remarqué que ce passage, et quand je dis vous aurez remarqué, je sais que vous l'avez fait, parce que maintenant vous êtes familier avec les textes de droit romain, et c'est ma fierté. Vous aurez remarqué que ce passage provient du commentaire de Gaius aux 12 tables. Les 12 tables remontent à 6 siècles avant lui, mais Gaius leur attribue déjà cette signification, au moins en mon sens. Le fruit réside dans la jouissance, c'est-à-dire dans le profit, dans tout avantage qu'une personne peut tirer de quelque chose. Paradoxalement, c'est notre législateur moderne qui a en revanche accentué la métaphore du fruit naturel. Pour les Romains, au contraire, le fructus, issu du verbe fruor, était tout ce qui procure une utilité à l'homme. Et donc, explorer les vocabulaires comme explorer les droits met au jour une même évidence, jusqu'à dans la définition de la nature, c'est toujours le regard humain qui structure l'essence. Et l'histoire en révèle la portée en nous renvoyant à nous-mêmes. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.